Bon, alors c'est des mecs qui demandent à des gars de venir avec des trucs qu'ils ont lus ou des chansons qu'ils ont l'habitude d'écouter, qu'ils aiment bien ou qu'ils aiment pas, mais enfin bon, en tout cas qui ont une certaine importance pour eux.
Vas-y, répète. Vas-y, répète. Alors, c'est le mercredi à 8h du matin. C'est sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. le mercredi, j'ai dit ça, le mercredi, une fois tous les 15 jours.
Vas-y, répète.
Le mercredi, une fois tous les 15 jours. sur 106.3. Fréquence Paris Pluriel.
Vas-y, répète. Vas-y, répète. Vas-y, répète.
Salut Laurent.
Il n'y a plus de papier hein.
Si.
Et mon verre d'eau, bordel.
Typique. Je veux pas y aller.
Bon, j'ai commencé par peut-être ça, alors, les Shredded Hermines. Les Shredded Hermines, c'est un groupe que j'ai découvert il y a quoi, il y a 15 ans, qui faisait la première partie de Noir Désir, qui était complètement inconnu, et puis bah, qui est resté, je crois, qui s'est dissous, et que j'avais vachement aimé, j'avais trouvé ça très très cool. Donc j'avais acheté les CD, et puis... C'est assez marrant parce que des années plus tard, j'allais voir un concert au Bataclan ou je sais plus, à la Cigale, je crois. Et j'ai retrouvé le chanteur des Shredded Hermines qui était au guichet, quoi. Qui faisait les billets. Et bon, donc, enfin. Donc, ça s'était pas passé tout à fait comme il voulait pour lui, j'imagine. Ou alors, enfin, c'était une période de transition qui n'était pas hyper cool. Et moi, je l'ai reconnu à l'entrée, et je me suis exclamé, je lui ai dit « Salut, mais je te reconnais, t'es le chanteur des Shredded Hermines. » Et lui, il avait l'air un peu emmerdé, un peu gêné, quoi. Et moi, je regrette de pas lui avoir dit, enfin, je lui ai juste dit deux, trois trucs, « Ouais, mais alors, tu prépares un nouvel album, c'était bien votre truc. » Et puis bon, enfin, je regrette de pas lui avoir dit tout le bien que je pensais de son truc. Ouais, je me souviens donc, avant qu'il se dissolve, il passait très rarement en concert, et j'avais vu qu'il passait une fois à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Et vraiment, j'étais fan, j'y étais allé, quoi. On était dans une salle de 3000 personnes, on était 50, quoi, et ils avaient fait leur concert, c'était cool. On était allé les voir backstage, on avait un peu discuté avec eux, c'était sympa. Et puis, à l'époque, c'était le folklore de la banlieue lyonnaise, de Vaux-en-Velin, quoi. Et donc, pendant la soirée backstage, on avait appris que le gymnase de Vaux-en-Velin avait brûlé, incendié par des jeunes de banlieue qui étaient énervés. Donc, c'était marrant comme souvenir. Et ce soir-là, ils n'avaient pas chanté ma chanson préférée, celle qui s'appelle Cochise. Et ouais, donc ce qui me plaît dans cette chanson, c'est le refrain « Eya, eya, feeling like cochise, eya, eya, surrendering too soon ». Et en fait, sur un rythme super épique, le rythme très tendu, bon, enfin, ce que j'aime bien en général. Et pendant des années, en fait, je crois que je me suis trompé sur le sens des paroles. Je croyais qu'il disait, en gros, « Je me sens comme cochise, il est trop tôt pour se rendre ». Alors que je crois qu'en fait la traduction exacte c'est « je me sens comme cochise qui se rend trop tôt ». Et donc pour moi c'était vraiment un truc hyper dynamisant face à toutes les adversités que je pouvais rencontrer dans mon existence quotidienne. Je me passais la chanson et je me disais « bon voilà, allez, je me bats jusqu'au bout, etc. etc. » Ouais, bah c'était marrant de traverser la moitié de la France pour dormir dans un motel pourri, pour voir un petit concert verdique, bien que, enfin moi j'ai trouvé ça super, hein, mais bon c'était une première partie de première partie de première partie, avec personne dans la salle, et les mecs, à la fin donc j'avais vu en backstage, qui étaient légèrement dégoûtés, comme tous les mecs qui sortent de concert et qui s'appellent pas U2, quoi, qui disent « ouais putain j'avais pas de retour à la basse, ouais j'entendais pas ma guitare, etc. etc. » Ouais, une sorte d'épopée de mecs qui galèrent, quoi, tu vois, enfin tout sentait la misère quotidienne, et puis en même temps il y avait un côté un peu épique, quoi. Ouais, alors je pouvais pas l'écouter en bagnole puisque j'avais pas de lecteur de CD. Donc, quand est-ce que je l'écoutais Ouais, chez moi le soir, quoi. Chez moi le soir. Chez moi le soir, la nuit, quand c'était l'heure de me faire des films. Et puis voilà, quoi, de m'imaginer une destinée glorieuse, quoi.
Mademoiselle Zito.
Et c'est parti.
Ouais, on est parti là. On ferme, non?
Ouais.
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 Tiens, tu fermes, Zachary? Donc, je vais commencer par ça parce que c'est en fait, c'est le départ de tout. c'est le départ de... En fait, le vrai départ, c'est un complexe. En fait, je me suis aperçue qu'à 15 ans, j'étais vraiment totalement inculte. Totalement inculte. Et puis, et pourtant, j'avais envie de lire. J'aimais lire, mais je lisais très peu, quoi. Je sais pas, jusqu'à 15 ans, j'avais lu quoi ? J'avais lu des Comtesses de Ségur, des Clubs des Cinq, et un Jules Verne, tu vois. C'est vraiment, mais j'ai... C'est vraiment naze, quoi. Et puis j'arrive au lycée, et puis là, je rencontre des gens qui avaient déjà lu Kundera, des trucs, c'est pas possible, ça. Comment ça se fait que des gens avec qui je me marre en classe, avec qui je me marre dans la cour, ils disent des trucs vachement plus intéressants, enfin, comment ça se fait que moi j'ai rien lu par rapport à eux, donc je me suis mise à lire. Ils m'ont donné envie de lire ces trucs-là, quoi. Et puis, au fil de mes lectures, je me suis aperçue que j'avais carrément, mais pas de vocabulaire du tout. Je venais de ma banlieue et j'avais, 10 mots à mon vocabulaire. Et ça a créé un complexe chez moi terrible. Non seulement je ne connaissais rien à la littérature alors que j'allais me spécialiser en lettres, et en plus j'avais aucun vocabulaire. Donc j'ai décidé de noter, alors ça a été énorme comme boulot, mais j'ai adoré ça, de noter par ordre alphabétique tous les mots. Tous les mots voilà, que je comprenais pas, que... Et je me suis aperçue, mais c'était énorme, quoi, hein, vraiment. Et donc ça, c'est la deuxième, en fait, c'est la deuxième édition. Je l'ai commencé, j'avais 16 ans, donc à 16 ans, il était sous forme de feuilles, comme ça, à trous, là, les classeurs, là, c'était crado. Et puis 10 ans après, j'ai commencé à le réécrire dans un cahier, au propre. Et c'est joli, quand même, hein, c'est propre. Les mots en rouge, donc, dans la marge, avec les petites définitions, les synonymes et tout. Et puis, bah, quand je le revois, comme ça, je m'aperçois, bah, il y a des mots, ça va vous parler, mais des mots, mais vraiment de base, quoi, hein. Tu vois, non mais franchement, putain, j'ai honte. Tu sais ce qu'il y a là ? A priori. Ça, je vais pas le remettre, quoi. Putain, mais j'étais vraiment grave. Hein. Mais pas seulement. Je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de mots. Je suis sûre que je vais vous piéger, quoi, avec des mots. Il y a plein de mots, quand même, que moi, je considère comme difficiles, quoi. Qui sont pas courants.
N'inverse pas les rôles, quand même.
Non, mais par exemple, un mot de base, cloaque, c'est bon. Cloaque, tout le monde connaît cloaque. Bon, il est dans mon dictionnaire, parce qu'à 16 ans, j'imagine, cloaque, je savais pas ce que c'était du tout.
Voilà. Ou si je me gourre pas, en latin, c'est cloaca, c'est caca, non ?
Ah, c'est possible. C'est possible. Ça serait joli que le caca vienne du cloaque. Du cloaca. Un lazy, tiens, c'est... On dit une lazy ou un lazy ? Une...
Ça, c'est un truc en peinture.
Non, tu confonds avec l'azur.
Un lazy, c'est une...
Lazy.
De foule,
là,
je sais pas quoi.
Ouais, c'est lazy, un... On n'est pas loin. Ouais.
Les... Oui.
Lazy. Tu dis les lazy ?
Ouais.
Les lazy de la foule.
Il y a deux
Z. Plaisanterie, moquerie, bouffonnerie, colibet, etc. C'est joli. Est-ce que vous savez ce que c'est un cossifé ?
Un cossifé.
C-O-C-Y-P-H-E.
Je dirais que c'est un insecte, mais je me trompe.
C'est une sorte d'insecte, en effet.
Ouais, je pense à une petite bestiole de...
Ouais, c'est tout à fait ça. Écoute la définition. Chef d'une secte.
Ouais, je comprends.
Chef d'une secte, d'un parti. Celui qui se distingue le plus d'une société, ouais, un guide, etc. Donc, c'est ça, c'est un insecte.
Ouais, c'est
un insecte. Alors, j'ai plein de livres comme ça. En fait, la plupart de mes vieux livres, je le fais un peu moins maintenant, mais la plupart de mes vieux livres, il y a plein de mots à la fin ou au début. Sur les téléramas aussi, il y a beaucoup, souvent sur les couvertures de mes téléramas, il y a beaucoup de mots comme ça. Parce que, encore aujourd'hui, évidemment.
C'est un truc hyper dur. Tu continues à noter.
Ouais. Enfin, moins assidûment, avec moins de si tu veux, de. J'ai plus de complexe, en fait.
C'est un truc hyper dur.
C'est un truc hyper dur.
Non, c'est pas dur. Qu'est-ce que tu voulais dire, en fait ? C'est ça que tu voulais dire ? Parce qu'il n'y a rien de dur.
Non, je voulais savoir si c'est une pratique que tu continuais. Genre,
ouais, je continue,
aussi,
mais...
Tu vois, aussi...
Bah, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est assez drôle.
Genre, le cahier, en rouge dans la marge, ou simplement tu te renseignes comme chacun fait, avec savoir ouvrir les dicots.
Non, justement, je le fais plus en rouge dans la marge, tout ça, je suis assez... J'ai plus le temps, quoi.
Et ça veut dire
avant,
que...
j'avais que ça à foutre, mais là...
À l'époque...
Mais il faudrait que je m'y remette. En fait, j'ai un côté maniaque.
Ouais, je pense.
J'ai un côté hyper maniaque. J'ai besoin. Tu vois, tous mes livres dans cet appart sont répertoriés. Mes cassettes vidéo sont répertoriées avec des numéros. Enfin, j'ai un côté hyper maniaque. J'ai besoin de ça pour. J'ai besoin d'un renseignement, toc, je sais en général.
C'est une tendance graphomane aussi, parce que ce que tu peux apprécier, c'est.
Ouais, tout à fait.
C'est pas idiot. J'ai une tendance grave. D'ailleurs, j'écris à la main beaucoup. J'écris à ma grand-mère très souvent, qui est en maison de retraite. Non, mais c'est rare, hein, c'est pratique. L'été, tiens, je t'ai raconté l'autre fois. Cet été, j'ai écrit des lettres à 4-5 personnes. Des vraies lettres.
400 personnes.
4, 5. 4 ou 5. C'est plus la petite carte. Ah oui, il fait beau. Non, j'ai besoin.
Est-ce que les mots venaient à toi ou est-ce que tu allais les chercher, genre. J'ai dit quoi ? Ah, celui-là, je le connais.
Ah
pas,
non, mais... jamais. Non, ah non, ça, c'est une démarche qui m'intéresse pas.
Au hasard.
Exactement. Un mot, par exemple, que je rencontre 3-4 fois et je sais toujours. Enfin, je devine à force dans le contexte. Mais j'ai envie de connaître sa définition exacte.
Et est-ce que, genre, là, tu vois, j'en cherche un dur, tu le connais par cœur, je peux faire une interro ?
Non. Non, je les connais pas tous par cœur, c'est impossible.
Genre, cossifé,
j'aurais pas su.
Non. Ça veut dire aussi que ça s'alimentait, c'est-à-dire que ton dico perso t'amenait à lire.
Bah oui, moi je le lisais.
T'amenait à écrire.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'était pour m'enrichir. En fait, j'aime l'idée du mot plus que l'idée, en fait, tout court. C'est-à-dire, je suis plus attachée aux mots qu'aux idées. Je trouve que les mots amènent les idées plus que, tu vois. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de mal à lire des vrais livres d'idées comme les essais, un essai quoi.
Tu crois que ça existe, les vrais livres d'idées ?
Ouais, ce que j'appelle vrais livres d'idées, c'est les essais.
Un style quand même.
Je trouve pas. Dans les essais, j'ai du mal. Mais à ce propos, justement, j'aime bien les idées très, très courtes, très concises sous forme d'aphorismes, c'est ça qu'on dit ? Des choses comme ça. Tu vois, les petites anthologies de... D'ailleurs, j'ai apporté le bêtisier des philosophes, où c'est hyper drôle, quoi, parce que c'est plein de petites phrases, que de philosophes, quoi, sur des thèmes bien précis. Donc là, j'ai pas à me taper tout Schopenhauer ou tout Nietzsche, parce qu'ils m'intéressent, ces gens-là, mais j'arrive pas à les lire, donc je les trouve inaccessibles. Le seul livre de vraiment philosophie que j'ai lu en entier, c'est... C'est un Sartre, quoi. J'ai distancié sur Tannemanie, c'est le seul que j'ai lu et qui m'a plu. Mais bon, après, j'ai... Voilà.
Et à partir du...
En fait, je les mets en contexte. Souvent, j'ai des exemples.
Tu te souviens pas, par exemple ?
Non. Certains... le dernier souvenir que j'ai, c'est... le dernier est drôle, c'est un mot. Lors d'un chat sur Internet. J'étais sur un site où je voulais rencontrer des femmes. Là, je me livre un peu. Hein. C'était il y a 2-3 ans. Et je rencontrais que des hommes. C'est ça le plus drôle. Et avec les hommes qui daignaient me rencontrer. Je ne comprenais pas, alors que je pensais que ce serait plus facile de rencontrer des nanas. Mais les nanas... Bah non, c'était un peu à moitié nana, à moitié... c'était un peu mixte.
Si il y a une nana, il va être tout de suite investi par un...
Ouais, tout à fait. T'avais quand même... T'avais quand même des sortes de qu'on appelle ça, de forums nana, de forums lesbiens, je sais pas quoi, où là, on se retrouvait entre gonzesses, mais même là, bah, c'était du délire, parce que les nanas ne voulaient absolument pas donner leur portable, c'était hyper dur, fallait discuter 3000 ans avec elles avant qu'elles daignent te rencontrer, tu vois, alors que les mecs, alors je te dis pas, quoi, t'avais un rendez-vous en 2 jours, et à chaque fois, c'était une cata. Enfin, c'était super drôle, mais tout ceci dit, j'ai des anecdotes là-dessus de mecs que je rencontrais par Internet, c'est comique, quoi. Les mecs, ils ont pas honte, quoi. Ils ont rendez-vous avec une nana, quand même, ils viennent... je sais pas, on dirait qu'ils ont vraiment lâché l'affaire, quoi. Ils ont abandonné, quoi. Il n'y a aucun souci de séduction, c'est que dalle, j'arrive avec des vieux mocassins sans chaussettes, un truc pourri, enfin bon. Et ils te disent, au bout de 2 minutes... Tu penses que je te plais, au bout de 5 minutes, quoi. Tu penses que ça va, je suis à ton goût. Bah, là, vu la franchise, tu restes toi aussi, tu vas gagner du temps en lui disant, bah, je crois que non, en effet, vaut mieux qu'on arrête là tout de suite. Et le mec, il s'en va.
Il s'autodétruit,
ouais, tu vois. Mais bon, ça, c'est un cas. Et donc, lors d'un chat avec une nana, justement, qui était vachement agressive. Ah, c'est incroyable. En général, c'est jamais agressif, quoi, les chats sur Internet. Je comprenais pas, il était super. Hein. Et à un moment, elle fait Anna Corette. Quoi? Anna Corette. Alors là, je fais l'idiote. mais pas complètement non plus. Je fais, ah, ça c'est chouette, toi, t'utilises des mots que je comprends pas et tout. Tu dois être vachement intéressante comme Nana. Anna Corette, tu peux m'expliquer ce que c'est. Et elle m'a dit gentiment de me référer à mon dictionnaire. C'est pour vous dire, la nana, comment elle était sympa, quoi. Au lieu de me donner directement la définition, non, il a fallu que j'aille voir mon dictionnaire. Donc je vous pose la question.
C'est un mec qui se la joue, non,
un
peu.
Un anachorète, c'est une sorte d'ermite qui va se réfugier dans la solitude, un peu comme ça. Par opposition à cénobite.
Cénobite.
Alors un cénobite, c'est aussi un ermite. Mais lui, il se réfugie pas dans une solitude. L'anachorète, c'est un truc, un perso, quoi. Il se réfugie dans la solitude, un peu contemplatif, comme ça. Un truc perso. Le cénobite, lui, c'est. Il va se réfugier dans la religion, un truc plus cadré, plus sectaire, machin. Avec à sa tête, un cossifé.
Vas-y, répète. Vas-y, répète. Vas-y, répète.
Bah écoute, le deuxième choix, j'irais bien sur Gainsbourg parce que c'est drôle. En fait, quand les mots vous font faire des conneries, en fait. C'est un peu graveleux, c'est pas grave. C'est un souvenir super drôle que j'ai avec Béatrice, une copine, et sa sœur Patricia. On s'est retrouvés en Vendée à 15 ans. Dans leur maison là-bas en Vendée, et on se faisait chier le soir à minuit, et il fallait qu'on trouve une connerie à faire, on l'a trouvée. Et pour faire cette connerie, c'est parti du livre de Gainsbourg, Evgeny Sokolov, qui est l'histoire d'un peintre pétomane, super drôle. Et donc on se marrait sur ce bouquin, on lisait des passages, et voilà, il est en train de parler de ses problèmes de gaz, il a des réels problèmes de gaz qui le font souffrir, ce peintre. Après avoir pensé un instant, m'insuffler dans l'anus de l'air à l'aide d'une pompe à vélocipède, je résolus de faire l'acquisition de traités médicaux qui devaient m'instruire de mon mal et m'aider, non pas bien sûr à le guérir, mais à le cultiver. Donc en fait, et voilà, et la sœur de Béa, Patricia donc, a gentiment proposé qu'on fasse l'expérience de donc s'insuffler dans l'anus de l'air à l'aide d'une pompe à vélocipède. Donc les parents dormaient profondément, on était dans le garage, on était chercher une pompe, et on l'a fait. Et ça marche en fait, quand on s'insuffle de l'air à l'aide d'une pompe, et ben ça provoque des vents. On a eu la plus grosse crise de rire de notre vie, mais tellement on n'en pouvait plus, tellement c'était inimaginable de que ça fonctionne, quoi. Donc c'était des pets totalement artificiels.
Est-ce que ta mère était au courant ?
Ma mère ? Oh, je sais pas, j'en ai peut-être parlé, pourquoi ? Qu'est-ce que ma mère vient faire là-dedans ? Parce que c'est pas, en fait, hein, c'est pas, y a rien de... Enfin, c'est pas une sodomie, hein. Tu vois, c'est juste à l'entrée, quoi, de l'anus, quoi. Oh, puis, il faut bien quand même bien le placer pour pas qu'il y ait de l'air qui passe, parce que l'air rentre bien. Et après tu rejettes les... Ça fait vraiment d'épais, quoi. Ça, c'est super marrant, quoi. Enfin, à l'époque, moi j'avais 15 ans, ça me faisait super rire. Maintenant, je sais pas si aujourd'hui ça me ferait rire autant. Je sais pas, j'aurais un peu honte aujourd'hui avec... Non, peut-être pas, j'aurais peut-être pas honte avec des copains, des copines bien bourrées, pourquoi pas. C'est très drôle.
Vous cherchez une connerie à faire ?
Non, en fait, c'est pas qu'on cherchait une connerie à faire. Il était tard. Voilà, c'est un peu les soirées tardives, nocturnes. On est jeune, il y a les parents qui dorment à côté. Et ça sent l'interdit, quoi. tu vois, surtout avec les parents, bah oui, bon, faut connaître les parents de mes copines. On était chez leurs parents, bien rigides, pas trop d'humour, tu vois, dans une maison vieillotte, pas belle, avec des bibelots affreux partout. Et nous, on est là, bon, avec nos 15 ans, on a envie de s'amuser, de... Voilà, puis il y avait le livre qui traînait, en fait, c'est vraiment, c'est toi, on discutait de tout et de rien, le livre, il était là, ah ouais, ça, je m'éclate en ce moment, je me marre, c'est pas grave, et je commence à lire des passages, et puis voilà, quoi, et Patricia, elle dit, bah, ça serait drôle d'essayer, comme ça, mais nous, franchement, elle a dit ça sans penser que Béa et moi, on oserait, en fait, parce que, ouais, c'est ça, Patricia était plus jeune que nous. Et puis nous on s'est regardé, on a trouvé l'idée tellement drôle qu'on est parti chercher les pompes à vélo. Et puis on s'est marré, mais alors... Et puis bon, voilà, c'est l'idée d'être dans une maison, voilà, on est dans une pièce, nous on est morts de rire, mais il faut pas rire trop fort non plus, parce que...
Vous entraidiez ?
Non. Non, on s'insufflait l'air toute seule. Non, en plus, voilà, c'est ça, c'est voir sa copine. Faut voir les positions que t'es obligé de prendre. C'est ton frog, enfin, tu prends des positions complètement ridicules. Là, toute la situation est complètement ridicule.
Tu dis que c'est pas une sodomie, certes, mais c'est quand même un peu sexuel quand même.
Ah non.
Non, du tout.
Non. Non, je n'y vois absolument rien de sexuel. Là, tu essayes de me faire de.
Non,
de
chercher mais moi, non, mais tu vois, j'imagine la situation et je me dis.
Non, il n'y a rien. Non.
Déjà, l'idée d'interdit, tout ça, il y a un truc.
Ah ouais, mais non. Non, c'est trois copines. Non, il n'y avait pas du tout d'érotisme dans l'ambiance, quoi. Mmh. Pas du tout. C'était vraiment de base, faisons des paix artificielles, on va bien se marrer, quoi. Parce que c'est... Bon, en plus, c'est des paix qui sont forts. Quand tu t'insuffles de l'air, ça fait vraiment des gros paix, quoi. C'est vraiment immonde, quoi. C'est immonde. Je peux avoir le briquet, s'il te plaît ? C'est vraiment... C'est dégueu, quoi. Qu'est-ce que c'est marrant ? Oh là là, mon Dieu.
Monsieur Binet.
Ah oui, mais si, je sais très bien en fait. Mano Solo, j'ai découvert sur Boulevard des Clips quand il passait Allo Paris en boucle tous les soirs. C'était mortel, avec de la trompette, il était pieds nus et il essayait d'appeler une meuf au téléphone qui répondait pas. C'était ça le thème de la chanson. Et c'était absolument génial. Et donc, comme l'album et puis tout ce qu'il a fait ensuite était au même niveau, j'ai jamais raté un album de Mano Solo. Et celui-là, je l'ai écouté énormément quand je m'étais fait larguer par une fille. Ça avait été très très douloureux, j'avais morflé comme un chien. Et toutes les chansons de l'album, je faisais un transfert, je les adaptais à mon cas de pouf con, de mec largué, quoi. Et toutes les chansons, j'arrivais à les rattacher à mon histoire de façon même assez précise. Et celle que je préférais, c'était donc une qui s'appelle Le Périph. Où il fait le tour du périph' en pleurant avec la lumière des phares dans la gueule et puis la police au cul, enfin bon, un truc, des histoires comme je les aime bien, quoi. Et puis, donc c'était d'autant plus parlant pour moi que là, pour le coup, je l'avais en cassette, l'album, et donc je l'écoutais sans arrêt, non-stop, dans ma bagnole, sur le périph', sur l'autoroute, en ville, partout, et donc c'était assez jouissif, c'était une musique qui était faite pour rouler vite en bagnole quand tu déprimes, donc c'était génial, c'était vraiment la musique qu'il me fallait. Et je me souviens que donc j'étais vraiment désespéré vis-à-vis de cette jeune fille, Et j'avais fait un truc bizarre, elle était en vacances au Canada, et j'avais fait l'aller-retour Paris-Camaret. Camaret, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, tout au bout de la Bretagne, parce qu'elle avait une maison de campagne là-bas. Mais je savais qu'elle n'y était pas, quoi. Mais simplement, je voulais lui poster une carte postale de ce bled à chez elle, quoi, pour lui montrer que j'étais passé sur ses traces, ou je sais pas exactement ce que je voulais prouver, que j'étais entre autres capable de faire 500 km aller-retour, 1000 km, donc pour rien, juste pour respirer sa trace dans un endroit où elle avait mis les pieds, quoi. Et donc pendant les 500 km, les 1000 km aller-retour en boucle, parce que j'avais un auto-reverse sur mon petit radio cassette, mon petit autoradio en boucle, l'album non-stop, quoi. C'était l'été, je crois, fin de l'été, la rentrée approchée. C'était de toute façon une période déprimante, quoi. De quoi je me souviens de mon passage furtif à Camaret? Je me souviens que à l'époque, j'étais en train de lui écrire une très longue lettre qui a fait 75 pages à l'arrivée. Et donc j'étais allé dans le bar où on avait été ensemble avec des amis à elle quand elle m'y avait invité, quand on était ensemble et que tout se passait plus ou moins bien, quoi. Et donc j'étais retourné dans ce pub qui m'avait laissé un bon souvenir. Je me souviens que j'avais fait un billard avec ses potes et que pour mon prestige, il fallait pas que je perde, et que je les avais bien latés, et que j'avais été en difficulté pendant une partie où j'étais très mal barré, et où j'avais opéré un retournement de situation de dernière minute grâce à un sens tactique supérieur. Et donc j'avais gagné, et les mecs avaient apprécié, enfin j'avais pu faire la vedette, donc ça m'avait laissé un très bon souvenir, ce passage dans ce pub, et je m'étais arrêté pour continuer ma lettre quand finissait pas, donc qui était en train d'atteindre les... Enfin, qui tendait donc vers les 75 pages. Et puis je me souviens aussi que j'avais vaguement glandé sur la plage où il y avait encore quelques vacanciers, et pour la bonne bouche, j'avais essayé de draguer une nana. Mais dans mon état, forcément, je risquais pas d'être très efficace, et donc ça avait été assez grotesque. Et je l'avais raconté d'ailleurs assez sportivement dans la lettre que j'écrivais à la jeune fille en question. J'avais abordé la nana, mais sans conviction, enfin je veux dire, comme un mec qui sait déjà qu'il va se faire envoyer chier, quoi. Et la nana m'avait dit, je lui avais dit, qu'est-ce que vous attendez là toute seule? Elle m'avait dit, mon mari et mes gosses, ou un truc comme ça. Enfin bref, donc ça, tout allait mal, quoi.
Fin d'été bourré de symbolique, quoi.
Ouais, l'horreur.
Et la lettre, tu l'as postée?
Ouais, la lettre, je l'ai postée, ouais, elle l'a lue, bon, elle a pleuré en la lisant, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, mais elle n'est pas revenue sur sa décision de me larguer pour un infographiste canadien.
Je sais bien comment t'insistes sur la liaison, hein. Un infographiste.
Probablement, est moins attaché que toi.
Probablement, l'enculé. Mais avec lequel elle est désormais mariée et elle a un gosse, une petite fille, je crois. Pourquoi celle-là aussi plus qu'une autre? Parce que je crois qu'il y a un vrai combat à mener pour la réhabilitation de la bagnole à Paris, que les écolos, les pistes cyclables, les bus, ça me fait chier, quoi. Et que le périph, je trouve quand même que c'est un... Bon, c'est un vecteur de poésie qui est trop sous-estimé, je trouve. Cette chanson, cet album, ils sont pour toujours associés à cet accident de ma vie, quoi. À cette rupture, quoi.
Je roule tout droit sur le périph' depuis des heures. L'enfer pour qu'on fasse, il voit pas que je pleure. Sur le pare-brise, la crasse vient à bout de mes essuie-glaces. Portes et fenêtres condamnées, accélérateur bloqué. Je regarde ma vie défiler. Mille lumières, autant d'enfer qui se croisent et se toisent, me ratiboisent. Et je vois un mur au loin qui recule à mesure. Et je sais qu'un jour viendra. S'arrêtera. je navigue aveugle sous la pluie. Ondulant, les vagues filantes, encornées de brume, déchirées, les toiles hurlantes entre les gros tonnages qui font barrage. Les marées noires qui croient m'avoir, qui jouent des coups, des roules à plein pot. C'est pas ce soir qu'ils auront ma peau. Je roule tout droit sur le périph' depuis des heures. Les gyrophares, les nécrophages arriveront toujours trop tard pour ramasser mes dérapages. Et je vois un mur loin qui recule à mesure. Et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera. Et je sais qu'un jour viendra où le mur s'arrêtera. Yeah. Et je sais qu'un jour viendra où le mur.
Mademoiselle Zito.
Bon, c'est des livres qui m'ont, sur lesquels j'ai des petits souvenirs comme ça. Par exemple, celui-ci, je me souviens que... déjà, c'est mon meurtrier préféré, on va dire, dans Crimes et Châtiments. Nananikov, là, comment il s'appelle ? Raskolnikov, voilà. Je trouve que c'est le meurtrier le plus intéressant de la littérature. Enfin, en tout cas, Dostoïevski le rend hyper intéressant. Moi, c'est parce que en fait, c'est un meurtrier qui. C'est pas le meurtrier d'aujourd'hui, là, le meurtrier qu'on a l'habitude de montrer, qui a du sang-froid, qui frappe sans peur et sans reproche, quoi. Lui, c'est vraiment le meurtrier très humain, qui n'assume absolument pas son meurtre, mais qui va quand même et qui est terrorisé, qui est horriblement angoissé de tuer deux personnes à la fois, et pourtant il le fait. Et là, alors là, les descriptions, moi, quand je suis arrivée au meurtre, et surtout l'après-meurtre, en fait, toutes les angoisses du meurtrier, j'étais obligée de fermer le livre à un moment, parce que tellement je ressentais son angoisse, en fait. Voilà, c'est ça que j'attends d'un auteur, quoi, quand il est capable, comme ça, de... qu'on est capable à ce point de sentir vraiment les sentiments des personnages. Et là, le meurtre, c'est une... Je vais essayer de vous lire un petit extrait pour...
Tu serais qui dans Crimes et Châtiments ?
Honnêtement, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je me souviens qu'il est entouré pas mal d'étudiants un peu péteux, un peu sur deux et arrogants, etc. Je n'ai pas d'identification, en fait, mais c'est pas un personnage auquel je m'identifierais. Mais c'est un personnage plutôt par empathie que je vais. Il est minable un peu. Je le trouve à la fois minable et à la fois pathétique, donc tellement humain que on déteste pas vraiment ces personnages, quoi. Tu vois, c'est pas un personnage qu'on déteste. Il y a d'autres meurtriers comme ça qui sont auxquels je me suis attachée, plus ou moins, quoi, on va dire. Enfin, il y a plus attachant que lui. Lui, il a un côté minable, je trouve. D'autres, parce qu'il est relativement instruit, etc., en plus. Donc, c'est vraiment un côté minable. Mais tu prends des meurtriers, les meurtriers de sang-froid, de Truman Capote. Là, c'est vraiment deux abrutis du fin fond des États-Unis. Alors, eux, vraiment, ils m'ont fait de la peine, quoi. Parce que... Ah ouais, non, vraiment, quoi. Parce qu'ils tuent un peu par... par dépit, quoi. C'est ils partent pour arnaquer des gens, ils partent dans une maison pour leur piquer leur fric, et puis finalement ça tourne mal et ils les tuent parce que ils sentent qu'ils sont obligés, alors ils paniquent un peu, ils les tuent mal, donc ils les font souffrir et tout. Enfin, c'est énorme. Ouais, ça tourne au massacre total. Et
mais il y a quand même chez Raskolnikov un côté maladroit auquel on peut s'identifier.
Oui, mais c'est le côté humain et angoissant, c'est pour ça que moi j'ai fait. Je veux dire, si à un moment j'ai fermé le livre, c'est parce que sûrement je m'identifiais. Je me mettais à sa place. Oui, on peut s'y mettre. On se dit, mais putain, ça serait que ça pourrait être... Dans sa situation, j'aurais peut-être fait la même chose, me sentir obligée de tuer. En fait, au départ, il part pour tuer une personne, et en plus, il est obligé d'en tuer une deuxième parce que c'était un meurtre imprévu, je crois.
Ouais, et puis pareil, il laisse plein de traces.
Ah ouais, non, mais c'est minable, hein. C'est pas un serial killer, hein. La peur s'emparait de lui de plus en plus, surtout après ce second meurtre, absolument imprévu. Il avait envie de se sauver de là au plus vite. Et si à cet instant il avait été en état de voir et de raisonner plus juste, s'il avait pu seulement considérer toutes les difficultés de sa situation, tout le désespoir, toute la monstruosité et toute l'absurdité de cette situation, comprendre en outre combien d'embarras et peut-être même de crimes il lui resterait à surmonter et à commettre pour s'arracher de là et rentrer chez lui, alors peut-être aurait-il tout abandonné et serait-il allé aussitôt se dénoncer, non point par crainte pour lui-même, mais à cause de ce seul effroi et dégoût de ce qu'il avait fait. Voilà, ça c'est un petit passage et c'est, voilà, déjà, c'est déjà génial et ça dure comme ça 761 pages, ouais.
Autant
voilà.
Que David
Autant que David Copperfield, mais avec Dostoïevski, on ne s'emmerde jamais. Je dis bien jamais, jamais je me suis emmerdée avec un Dostoïevski. Merde alors.
Alors c'est le mercredi à 8h du matin. C'est sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. le mercredi, j'ai dit ça, le mercredi, une fois tous les 15 jours.
Vas-y, répète.
Ouais, Lou Reed de Perfect Day, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée en Slovaquie quand je faisais mon service militaire là-bas et que j'étais très très amoureux d'une jeune fille avec qui je suis resté 5 ans, une Slovaque absolument sublime, qui était mariée, qui a divorcé pour moi, c'était très compliqué. Et à l'époque, c'était l'époque où Trainspotting était sorti sur les écrans et notamment en Slovaquie, il le passait en boucle, tous les cinémas de la ville se faisaient se refiler Trainspotting, donc il passait pendant des mois et des mois. Et je l'avais revu plusieurs fois, et là-bas c'était un peu un film culte. Et dans la BO de Trainspotting, il y a Just a Perfect Day de Lou Reed. Et cette fille et moi, on avait. On s'était identifié à la chanson, quoi, le côté très romantique, c'est super. On sait pas de quoi demain sera fait, et probablement de rien de bon, mais en attendant, c'est cool, quoi. C'était vraiment la love story qui était mise en musique magistralement par ce joli morceau.
Et tu te souviens d'avoir fait des trucs sur la chanson?
Des trucs?
Non, mais danser, pas danser...
Bah, danser, baiser, plein de trucs, quoi. Danser, baiser, penser à elle, la regarder, je sais même plus si, je crois que je l'ai vécu cette scène, mais je suis pas sûr, tu vois, la regarder de loin quand on était dans le même bar, mais qu'on pouvait pas montrer qu'on se connaissait, parce qu'il passait cette chanson en fond sonore, ouais, des trucs romantiques, quoi. Je sais qu'ils vont se balader au zoo, tout ça, enfin, bon, moi je sais pas aller me balader au zoo.
Il se passe pas grand chose dans cette chanson.
Non, bah non, c'est ça le principe même.
I'm glad I spent it with you.
Voilà, exactement, ouais. Ah ouais, tout à fait, ouais. Et c'était une chanson très mélancolique, mais qui avait des très belles résonances positives à la fin, parce qu'à la fin, je crois qu'il répète en boucle « Tu vas récolter ce que tu as semé ». Mais pas dans un. Pas sur un ton vengeur, quoi, mais au contraire, quoi, sur un. Enfin, dans une perspective beaucoup plus positive. Et donc. À l'époque, vu la situation compliquée dans laquelle j'étais avec cette fille, j'avais besoin de, tu vois, de me bercer d'espérance, et donc cette chanson m'y aidait. Vis-à-vis de la chanson, ma mère, elle n'est pas trop dans l'histoire, hein, mais.
Tu la réinterprètes, donc
bon, non, mais attends, moi je veux bien dire quelque chose, disons. Ma mère, elle est super chiante, mais. mais elle m'a jamais fait chier avec mes histoires de meuf. Et elle, qui est plutôt du genre à paniquer rapide, quand je lui avais. À un moment, j'ai dû. Enfin, la situation était devenue très compliquée pour moi, puisque je me suis fait. Rapatriée en urgence pour raison de sécurité du pays parce que elle était mariée, la jeune fille, donc avec le beau-frère d'un mec super important dans le pays. Donc c'était le bordel, le mec voulait engager un professionnel pour me péter un membre, et à l'ambassade, j'ai jamais su comment ils avaient été au courant de cette idylle, mais en tout cas, eux, ils avaient paniqué, ils m'avaient rapatrié en moins d'une semaine. Donc la situation était tendue, et puis c'était le bordel, elle avait un gamin, elle était mariée, bref. Et ma mère m'a jamais fait chier avec ça, tu vois. Elle m'a jamais harcelé en me disant « Mais qu'est-ce que tu branles, là ? Elle était pas bien, ton ancienne petite copine, etc. » Tu vois, elle a tout de suite compris que, bon, fallait pas me faire chier avec ça. Et donc, elle a été assez cool sur ce coup-là. Voilà. Come, we have to talk, my friend. Il avait débarqué dans l'hôtel où je baisais sa femme. Et il était gros et tout, vraiment une gueule de mafieux, quoi. Il m'a dit, come, we have to talk, my friend. Et on avait discuté, il s'était barré en disant, ok, good fuck. Enfin, il était vraiment vénère, quoi. Et tout le monde m'avait dit ça, lui me l'avait dit, mais les autres, même sans savoir, m'avaient dit, mais tu sais, ici, ça coûte rien d'engager un mec pour te buter, ça coûte 3000 balles. C'était super tendu, quoi. Bah, je leur filerai à tous les amoureux, quoi.
D'un jour.
Non, pas forcément. Aussi, ceux qui sont ensemble depuis 15 ans pour se souvenir que... Avoir l'impression que c'est pour une seule journée, c'est bien aussi, quoi. Vive le moment présent, tout ça. Il y a un climat très amour adolescent, quoi. Peut-être qu'ils n'ont pas encore couché ensemble, mais à mon avis, ça ne saurait tarder quand même. C'est peut-être Janis Joplin. Lou Reed a couché avec Janis Joplin. Et Janis Joplin a dit, ouais, on était au pieu, on fumait des clopes, on était laid, on était heureux.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Mademoiselle Zito.
Dans le style, bonne rigolade autour d'une lecture, en voyant la cantatrice chauve de Ionesco, j'ai un souvenir super avec mes parents au sport d'hiver. C'est un moment pour. Quand j'y pense, je trouve ça assez émouvant parce que c'est une crise de rire que j'ai eue avec mes parents autour d'un livre de littérature, alors que je n'ai absolument pas ce genre de rapport avec mes parents. C'est-à-dire que les livres, je ne les ai pas découverts chez moi, puisqu'il n'y en avait pas. Donc mes parents ne sont pas spécialement férus de littérature, etc. Et j'ai réussi à provoquer chez eux une crise de rire en leur lisant un extrait d'Ionesco de La cantatrice chauve, qui est complètement absurde. Alors, bon, là, évidemment, on va pas partir dans un fou rire, hein, puisque c'est dans le cadre d'une interview. Mais encore une fois, c'est ça qui est super avec les mots, c'est que hop, d'un seul coup, ça, il y a une ambiance, ça vient tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien de prémédité. Je m'attendais pas du tout en leur lisant ça. Moi, j'étais toute seule dans mon coin, dans la chambre. On partageait un petit appart au sport d'hiver. Moi, j'étais dans mon coin. Et je me marrais toute seule dans mon coin. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, oh, non, attendez, il faut que je vous lise ça. Et c'était parti. Donc c'était peu.
Tu l'as refilé à ta petite sœur, nous a fait.
Non. Pourquoi?
Je sais pas, ta petite sœur n'était pas avec nous pendant.
Bah écoute, je m'en souviens plus. Sûrement. Sûrement, mais je me souviens pas d'elle. Je me souviens surtout de ma mère qui était tordue de rire. Avec le poème du feu, ça avait commencé, j'avais lu un passage avec le... Donc, il y a toute une conversation entre deux couples et un pompier qui cherche à éteindre absolument qui cherche des feux à éteindre, parce qu'il n'en peut plus, il n'y a pas de feu dans la ville, et c'est une horreur pour lui, quoi. Donc il cherche, et puis il y a la bonne qui se pointe, et puis pour histoire de mettre l'ambiance, elle dit, bah, écoutez, si vous voulez, moi j'ai un poème sur le feu. Alors elle se lance, le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu, le château prit feu, la forêt prit feu, les hommes prirent feu, les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, les poissons prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la cendre prit feu, la fumée prit feu, le feu prit feu, tout prit feu. Voilà, ça c'est. Moi je trouve ça super drôle, quoi. Enfin, pour moi, quand j'étais toute seule en train de lire ça, c'était complètement délirant, quoi. Et donc j'étais en train de lire ça, mais on était mais pliés en deux à chaque répartie, tu vois. C'est un fou rire qui partage, c'était génial. La cantatrice chauve. C'est rare hein, les livres qui me font rire en tout cas. Celui-ci, je me souviens qu'il m'a fait rire. J'avais
l'impression que c'est souvent un lieu propice à la lecture, les sports d'hiver.
Mais les vacances, oui, chez moi en tout cas, c'est un lieu propice, alors oui.
Puis au sport d'hiver, t'es particulièrement enfermé.
Aussi, ouais, c'est vrai. C'est vrai, il fait chaud, il y a des chemises. Ouais, c'est vrai, on a très envie. Moi en vacances en général, j'ai toujours très envie de. Je lis beaucoup. Ouais, c'est vrai, j'ai peu. Cet été, par exemple.
Du coup, tu avais fait une lecture devant, à table, quoi.
Dans les lits.
D'accord.
Ah ouais, non, c'était encore plus génial, parce qu'on était tous au lit. C'était vraiment, je sais pas, c'était 11h, il était 11h du soir, quoi. C'était vraiment un chouette moment, quoi. Un chouette moment.
Putain, vous en avez appris des trucs aujourd'hui, là. Pour moi, le single de tous les temps, le plus grand single de tous les temps, c'est Bullet with Butterfly Wings des Smashing Pumpkins. Despite of my rage, I'm still like a rat in cage. Et le début, The world is a vampire. Enfin bon, bref, il est absolument imparable. Et ce refrain, il est génial, quoi. Despite of my rage, I'm still like a rat in a cage.
Là, du coup, je trouve ça tellement bien foutu que c'est presque déconnecté de ta vie, quoi.
Ouais, exactement. Ou alors, ça englobe tellement tous les moments de mon quotidien que je peux pas le rattacher à un moment précis, quoi. Parce que c'est... le type ultime de la chanson de combat, quoi. La chanson combative, quoi. Le monde est méchant, j'ai encore de quoi mordre, quoi.
The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the... despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage.